écoutez, nous allons vers la demeure céleste, vers ce monde à venir merveilleux. Laisse-toi sauver par Jésus. Il a payé la rançon pour toi. Veux-tu venir avec nous à cette ville glorieuse? Jésus te recevra. Veux-tu venir avec nous? Veux-tu venir avec nous au ciel? La demeure céleste. Ô homme, cherchez le salut, soyez sauvés, acceptez pour ne pas périr, acceptez son amour qui vous appelle. Ô comme il voudrait voir tous sauvés, veux-tu venir avec nous à cette demeure céleste merveilleuse? Jésus te recevra. Jésus te recevra. Veux-tu venir avec nous pour aller au ciel? Veux-tu entreprendre ce pèlerinage vers la demeure céleste là-bas? Oui, selon la Bible, nous allons au ciel. Elle nous enseigne à vivre purifié et sanctifié par le sang et dans le sang. À laisser tomber tout derrière nous et à recevoir ce qu'il a accompli pour nous. Veux-tu aller avec nous à la ville céleste? Jésus te recevra. Veux-tu venir avec nous pour aller au ciel? Pour aller au ciel, viens aujourd'hui encore. Veux-tu entreprendre ce pèlerinage, ce voyage de pèlerin vers le ciel? Prenez au sérieux cet appel pour l'éternité. Et vous recevrez la couronne de la vie là-bas dans la gloire. Veux-tu venir avec nous pour aller au ciel? Jésus te recevra. Veux-tu venir pour aller au ciel, à la demeure céleste? Veux-tu aller au ciel avec nous à la ville céleste? Jésus te recevra. La foi en Jésus sauve seul. Et nous immerge dans le fleuve béni. Jésus nous a rachetés. Et nous a établis dans son royaume éternel. Viens et bois de ce fleuve qui jaillit du côté de Jésus et reçois encore aujourd'hui sa puissance. Ô fleuve précieux qui nous accorde plein salut, jailli pour chacun de nous. Reçois-le. Viens boire de ce fleuve éternel. Celui qui boit n'aura plus jamais soif. Ce fleuve est libre pour chacun. Jaillit du côté de Jésus. Ce fleuve est libéré et jaillit du côté de Jésus. L'esprit et l'épouse disent « Viens » et que celui qui écoute dise « Viens, viens et bois de ce fleuve gratuit et reçois la vie et la puissance et produit les fruits de l'esprit. » Ce fleuve qui se déverse librement jaillit du côté de Jésus. Ce fleuve qui est libre et jaillit du côté de Jésus et se déverse aujourd'hui. Les fruits de l'esprit, c'est l'amour et la joie, aussi la bonté, la patience et la foi. Et ces fruits de l'esprit sont trouvés parmi ceux qui sont enfants de l'esprit. Ce fleuve jaillit du côté de Jésus. Ce fleuve est libéré et se déverse du côté de Jésus. Ce fleuve se déverse librement aujourd'hui, jaillit du côté de Jésus. Ce fleuve jaillit du côté de Jésus. Nous souhaitons la bienvenue à tous les frères et sœurs du monde entier pour cette émission Observation de la parole biblique avec Frère Frank. Nous sommes reconnaissants d'entendre la parole de Dieu dans ce temps. Puisse le Seigneur bénir et fortifier et conduire par son esprit, frère Frank, pour qu'il dise ce que le Seigneur veut nous dire. Avant que frère Frank ne s'adresse à nous, je vais lire une parole d'introduction tirée des Actes des Apôtres, chapitre 3, du verset 19 au verset 21. Répentez-vous donc et convertissez-vous afin que vos péchés soient pardonnés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la face du Seigneur et qu'il envoie Jésus qui a été désigné pour vous comme oint. Lui, cependant, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de tout ce que Dieu a annoncé par la bouche de ses saints prophètes depuis les temps anciens. Jusqu'ici, la parole de Dieu. S'il te plaît, frère Franck, merci au Seigneur, notre Dieu, pour sa précieuse et sainte parole. Nous savons tous que nous vivons tout près du retour de Jésus-Christ. Nous savons tous que le Seigneur Dieu a envoyé son serviteur et prophète pour apporter le message divin avant le retour du Seigneur. Mais avant d'entrer plus en détail dans ce sujet, je voudrais tout de même présenter, apporter toutes ces salutations que nous avons reçues, que ce soit notre frère Müller de la mer Baltique, que ce soit tous ceux d'Autriche, de Suisse, de toute l'Europe, de Paris, de partout, du Canada, des États-Unis, d'Afrique, d'Asie, de partout, même de Londres. Nous avons reçu des salutations de partout et nous demandons au Seigneur de s'adresser à tous les vrais croyants dans tous les peuples et toutes les langues et que la parole du Seigneur fasse ce pourquoi elle a été envoyée, produise ce pourquoi elle a été envoyée. Nous avons en effet entendu deux choses principales dans la parole d'introduction. La première, afin que Dieu puisse envoyer le temps de rafraîchissement. Et nous attendons que Dieu puisse manifester, révéler sa vie parmi son peuple, accorder un rafraîchissement, un véritable mouvement de l'esprit, un mouvement opéré directement par l'Esprit de Dieu dans l'épouse de Jésus-Christ. Et nous attendons également son retour direct. Et nous savons, comme nous l'avons lu, le ciel doit le recevoir, lui, notre Seigneur, et Rédempteur, jusqu'au temps du rétablissement de tout ce que Dieu a dit par la bouche de ses serviteurs, les prophètes. Par la bouche de ses serviteurs et de ses prophètes. Ces paroles de l'Écriture sont si importantes qu'elles doivent vraiment être lues et prises à cœur, non pas une seule fois, mais à plusieurs reprises. Et vraiment prises à cœur. Notre Seigneur attend, oui, il reste dans le ciel, jusqu'au temps où tout sera rétabli dans son état originel, initial et divin, comme c'était le cas il y a 2000 ans dans l'Église du Dieu vivant. Et nous croyons de tout cœur que le Seigneur a envoyé frère Branham dans ce but. Et laissez-moi vous rappeler les paroles de notre Seigneur bien-aimé. On lui a demandé dans Matthieu 17, les scribes prétendent qu'Élie doit venir premièrement. Et la réponse a été, je vous le dis, la réponse est venue, je vous le dis, en vérité, Élie viendra premièrement et rétablira toutes choses. Donc, pas seulement les prophètes et les apôtres, mais notre Seigneur lui-même a confirmer qu'avant le retour de Jésus-Christ, notre Seigneur, un prophète comme Élie se présentera pour convoquer le peuple de Dieu comme cela s'est passé sur le mont Carmel et que le peuple de Dieu devra prendre une décision de continuer à suivre ses propres voies ou de revenir au Seigneur. Donc, alors, gardons à l'esprit et aussi dans le cœur qu'avant le retour de Jésus-Christ, le message pur et divin de la parole sera apporté. Et je rappelle deux jours qui ont une signification particulière. Une fois avec Frère Branham le 11 juin 1933, où il lui a été dit, tu seras envoyé avec un message qui précédera la seconde venue du Christ, le 11 juin, et ensuite le 11 juin 1958, où Frère Branham m'a dit à Dallas, Texas, Frère Frank, tu retourneras en Allemagne avec ce message. Vous connaissez tous mon témoignage de l'appel, de l'envoi, du mandat, de ce que Dieu le Seigneur, de ce que le Seigneur Dieu a établi pour cette période de temps. Et aussi certainement que Frère Branham a dit à la fin du septième saut qu'il avait porté le message aussi loin que cela lui était destiné. Dieu lui veillera ensuite qu'après lui, le message continue à être porté. Nous remercions le Seigneur Dieu de nous permettre de participer directement à ce que Dieu a prévu pour cette période, pour ce temps. Nous poursuivons notre lecture. Nous lisons maintenant dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 42. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 42. Mais ils gardaient et persévéraient dans l'enseignement des apôtres et dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières communes. Ils gardaient avec persévérance, dans l'enseignement des apôtres. Frères et sœurs, il en va de même pour nous maintenant, après que Dieu ait tout rétabli, chaque enseignement, chaque connaissance, toute promesse, tout ce que Dieu a dit à l'Église dans sa parole, nous le gardons et persévérons dans ces choses car elles nous ont été adressées. Cela nous est destiné. Poursuivons notre lecture. Nous lisons le verset 47 de Actes des Apôtres 13. Actes Apôtres 13, verset 47. Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. Je t'ai fait lumière des nations pour que tu deviennes salut jusqu'aux extrémités de la terre. Ça, c'était le moment dans lequel Paul a dû dire aux Juifs, puisse que vous n'acceptez pas la parole, le message du salut, nous nous tournons vers les païens. Et il s'est alors référé à la prophétie biblique, car c'est ainsi que le Seigneur Dieu l'avait déjà fait dire par le prophète Ésaïe au chapitre 49 d'Ésaïe. Et avant de lire ce texte, permettez-moi d'insister. Les apôtres ont reçu des instructions pour mettre en pratique ce que Dieu a annoncé par les prophètes. Nous poursuivons maintenant notre lecture. Nous lisons du prophète Ésaïe, Ésaïe 49, le verset 6. Ésaïe 49, le verset 6. Oui, il a dit, ce n'est pas assez pour moi que tu sois mon serviteur, seulement pour rétablir les tribus de Jacob et pour ramener les réchappés d'Israël. Non, je te détermine aussi à être la lumière des nations, pour que mon salut atteigne les extrémités de la terre. Loué soit notre Seigneur, loué et exalté soit notre Seigneur. Tout nous est dit dans cette double promesse, une fois pour Israël et ensuite pour l'Église des nations. Et il ne suffit pas au Seigneur de rassembler Israël de nouveau. Il ne lui suffit pas que Jérusalem soit redevenue la capitale d'Israël et que des millions de Juifs soient revenus de tous les peuples et de toutes les langues. Il ne lui suffit pas que les Juifs, que Israël revienne sur leur terre. Non, il a prévu deux choses dans son plan. L'une pour les Juifs, pour Israël, et nous voyons sous nos yeux que depuis 1948, la promesse s'est réalisée que le Seigneur a fait revenir son peuple Israël de partout et qu'Israël a été déclaré État. De la même manière, le Seigneur a veillé à ce que les nations, c'est-à-dire qu'il n'a pas suffi au Seigneur de faire la chose avec Israël, mais plutôt, il a dit, je t'ai déterminé, établi pour être la lumière des nations, pour que mon salut soit manifesté jusqu'aux extrémités de la terre. Tous les peuples, toutes les langues sont concernées et inclus. Frères et sœurs bien-aimés de tous les peuples et de toutes les langues. Y a-t-il jamais eu un message dans lequel tous les peuples, toutes les nations ont vraiment été atteints? Est-ce que cela a existé à l'époque de Luther, à l'époque de Wesley? Est-ce que cela a existé dans le passé? Non. Et encore une fois, non. Mais dans notre temps, cela existe. C'est une réalité divine que l'Évangile, le message divin du salut tel qu'il a été annoncé au commencement devait être proclamé à la fin, et cela avant le retour de Jésus-Christ à tous les peuples jusqu'aux extrémités de la terre. Et nous remercions le Seigneur Dieu de nous permettre de dire honnêtement et sincèrement. Aujourd'hui, ces deux passages bibliques sont accomplis. L'un sur Israël, l'autre sur l'Église. Heureux celui dont les yeux sont oints et ouverts pour voir dans quel temps nous vivons, dans quel temps nous sommes effectivement arrivés. Nous poursuivons notre lecture. Nous lisons dans Actes apôtres 13, maintenant le verset 48. Actes apôtres 13, verset 48. Quand les païens entendirent cela, ils se réjouirent et glorifièrent la parole du Seigneur. Et tous, dans la mesure où ils étaient destinés à la vie éternelle, crurent. Loué soit notre Seigneur. Quand ils entendirent cela, ils se réjouirent et glorifièrent la parole du Seigneur. Et tous, dans la mesure où ils étaient destinés à la vie éternelle, crurent. Tous ceux qui sont destinés, par Dieu à entendre le message divin, l'ont entendu, l'ont reçu et l'ont accepté, ont cru de tout leur cœur, sont devenus obéissants, et c'est exactement ce qui s'est passé dans notre temps. Nous n'avons pas seulement reconnu, nous avons reconnu que Dieu savait toutes choses à l'avance et qu'il pouvait exactement écrire dans le livre de l'agneau immolé avant la fondation du monde les noms exacts de ceux qui accepteraient sa parole. Il en va de même à notre époque. Tous ceux qui sont destinés à faire partie de l'Église épouse reçoivent maintenant et acceptent la parole de l'heure et louent Dieu de tout leur cœur et glorifient sa parole et acceptent de tout leur cœur le message qu'il nous a donné. Tous les autres passent à côté de ces choses. Aussi, tous devraient également relire ce passage biblique de Actes apôtres 13, verset 48. Tous ceux qui ont accepté sa parole étaient ceux qui étaient destinés à la vie éternelle. Et ils l'ont accepté, ils l'ont reçu. C'est exactement ce qui se passe maintenant. Si tu es destiné à faire partie de l'Église épouse, alors tu croiras et entendras et écouteras le message qui précède la seconde venue du Christ. Tu feras alors partie de ceux dont il est écrit. Et son épouse s'est préparée. Ô loué et exalté, soit notre Seigneur pour sa précieuse et sainte parole, révélée et vivante. Nous poursuivons notre lecture. Nous lisons maintenant dans 1 Timothée, le chapitre 4, le verset 1. 1 Timothée 4, verset 1. Mais l'Esprit annonce expressément que dans la suite des temps, quelques-uns abandonneront la foi parce qu'ils se tourneront vers des esprits séducteurs et des doctrines qui viennent des démons. Cela aussi est une mise en garde sérieuse. D'une part, ceux qui ont reconnu ce que Dieu fait maintenant, et d'autre part, ceux qui sont empêtrés dans des doctrines erronées jusqu'à ne plus en finir. Et tant de gens sont vraiment empêtrés dans des interprétations qui dépassent l'entendement. Mais il y a un troupeau racheté par le sang, un troupeau baptisé d'esprit et de feu, qui est conduit par l'Esprit de Dieu dans toute la vérité. Et aucune erreur et tromperie n'existe dans l'Église du Dieu vivant. Aucune interprétation, aucune explication, il n'y a pas une seule discussion dans l'Église épouse, sur le message, sur la parole de Dieu, sur ce que Frère Branham a enseigné, pas une seule discussion chez les véritables croyants. Ils ont entendu le message et ont repris la parole révélée dans l'Écriture sainte et ont fait de la parole sainte de Dieu leur absolu, car elle est et reste notre absolu. S'il vous plaît, encore une fois, dans l'épouse de l'agneau, il n'y a pas de discussion sur ce que Frère Branham, sur ce que Paul, sur ce que Pierre, sur ce que notre Seigneur a dit. Pas une seule discussion. Tous croient comme l'Écriture le dit. Tous ont reçu la révélation de la parole et sont conduits par le Saint-Esprit dans toute la vérité, s'il te plaît. Nous lisons dans 1 Timothée, le chapitre 4, le verset 6. Si tu fais valoir ces choses auprès des frères, tu seras un serviteur recommandable de Jésus-Christ, parce que tu auras pour nourriture les paroles de la foi et les bons enseignements que tu as pris pour référence. Amen. Ce verset m'est adressé. J'ai pris les bons enseignements, les vrais enseignements comme référence. J'ai transmis ce que Dieu a révélé. Et cela implique effectivement de souligner comment Frère Branham a reçu son ordre de ne pas faire le voyage en Suisse à Zurich, mais de retourner à Jeffersonville et d'y emmagasiner la nourriture. Et le même Seigneur, et ça je peux le dire en levant la Bible devant la face de Dieu, ce même Seigneur qui a chargé Frère Branham, qui a mandaté Frère Branham, à emmagasiner la nourriture divine, car l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole de Dieu. Cette nourriture, de l'emmagasiner, et c'est ce même Seigneur qu'il a ordonné à Frère Branham, c'est lui qui m'a ordonné d'emmagasiner cette nourriture. Et Frère Branham m'a dit le 3 décembre 1962, Frère Frank attend avant de distribuer la nourriture jusqu'à ce que tu aies reçu le reste qui en fait partie. Je ne veux pas m'étendre sur ce sujet, mais il faut simplement remercier le Seigneur. Tout comme nous venons de lire que des personnes se présenteront sous une fausse inspiration et présenteront des fausses doctrines et des interprétations. Nous l'avons également vu dans Matthieu 24, des versets 48 à 50. Et c'est là que nous voyons, je dirais presque, la sainte différence. Il m'a été dit le 19 septembre. Vous connaissez tous la date, le lieu et l'heure. Il m'a été dit, mon cœur est tout simplement trop ému pour le rendre ainsi. Mais aussi vrai que Dieu vit et que je tiens la Bible entre mes mains. Le Seigneur, d'une voix audible, a dit, mon serviteur, je t'ai déterminé à distribuer la nourriture selon Matthieu 24, versets 45 à 47, au temps convenable. Ça, c'est ainsi dit le Seigneur. Et c'est encore ainsi parle le Seigneur. Mais qu'en est-il du serviteur dont il est question au verset 48? Donc, d'abord, quelqu'un se présente avec un appel divin, apporte le message divin, et ensuite vient quelqu'un derrière lui qui n'a pas d'appel et de mandat. Et je voudrais demander aujourd'hui qu'on me pardonne cela, mais je vous demande, à vous dans le monde entier, avez-vous déjà entendu une seule fois qu'un frère a reçu un appel divin direct à voix audible après le départ de Frère Branham ou même avant le départ de Frère Branham, donc du vivant de Frère Branham ou après son départ? Tous, même ceux qui se présentent comme huitième messager, sont des menteurs. Ce sont simplement des menteurs qui n'ont aucune idée, qui ne connaissent pas Dieu, ni la parole de Dieu, ni son plan de salut. Je remercie le Seigneur Dieu pour l'appel divin et aussi pour la grâce qu'il m'a donné de transmettre la nourriture divine, de la distribuer, cette nourriture que Frère Branham a emmagasinée, de la mettre à disposition des frères servants et à tout le peuple de Dieu dans le monde entier. Ça, c'est ainsi parle le Seigneur dans sa parole, et cela se passe justement maintenant, avant l'accomplissement de Matthieu 25. Regardez cela. La dernière chose dont il est question est la distribution de la nourriture dans Matthieu 24. Et directement dans Matthieu 25. Après qu'il soit parlé dans Matthieu 24 de se tenir prêt et il soit parlé de la distribution de la nourriture, il est dit dans Matthieu 25 ensuite, c'est-à-dire lorsque la nourriture est distribuée en temps au temps convenable et que tous les autres se présentent ensuite comme huitième messager, comme soi-disant serviteur de Dieu, et qu'ils soient même ceux qui se font passer pour des prophètes, etc. Les deux vont de pair, le vrai et le faux, le vrai et l'imitation. Il en était déjà ainsi pour notre Seigneur. Il a semé la bonne semence. L'ennemi est venu après et a semé la mauvaise semence. Mais cela s'accomplit juste après. Dans Matthieu 25. Alors, lorsque la nourriture sera distribuée et que le peuple de Dieu, l'Église épouse, recevra dans le monde entier la dernière nourriture divine, la parole révélée, alors, c'est à ce moment-là que le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges. Et je demande à Dieu que vous, qui écoutez maintenant la sainte parole de Dieu, que vous soyez parmi les vierges sages qui purifient leurs lampes, qui mettent l'huile dans les vases et l'emportent pour être prête quand l'époux reviendra. Nous poursuivons notre lecture. Nous lisons dans 2 Timothée, chapitre 4, verset 3. 2 Timothée 4, verset 3. Car il viendra un temps où les hommes trouveront que l'enseignement des saintes écritures est insupportable. Et ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. À ce sujet aussi, il faut dire honnêtement ce qui suit. Dans l'église primitive, il n'y avait qu'une seule église dans chaque ville. Et vous savez tous que je l'ai déjà mentionné plusieurs fois, même à l'époque de Pérégrine, alors qu'il disait, il y a maintenant 8 églises différentes à Tucson. Puis il y en a eu 9 et ensuite 11. 11 dans une seule ville. Tout cela témoigne du fait qu'il n'y a pas eu pour ses frères qui prêchent un appel et un envoi. Aussi, dans notre temps, il n'y a pas beaucoup d'églises ou plusieurs églises, mais il n'y a qu'une seule église. Une seule église épouse à chaque endroit. Il n'y a pas plusieurs ou bien beaucoup. Il y a seulement beaucoup et plusieurs interprétations et beaucoup et plusieurs directions, comme on le dit à l'intérieur du message. Non, à l'intérieur du message, il n'y a qu'une seule direction, c'est-à-dire celle qui a été donnée dans la parole de Dieu et par la parole de Dieu. Tous les frères, comptez-les tous, demandez-leur, as-tu un appel, demandez dans tous les cercles et dans tous les groupes et tous enseignent autre chose et disent qu'ils appartiennent à l'épouse de Jésus-Christ. Non. Seuls font partie de l'épouse de Jésus-Christ ceux qui respectent et croient de tout cœur ce que Dieu a déterminé pour ce temps et ce que Dieu fait maintenant et ceux qui le respectent. Par exemple, si quelqu'un disait effectivement, je ne crois pas à l'appel divin que frère Frank a reçu le 2 avril 1962. Je ne crois pas que frère Branham lui ait dit le 11 juin 1958, tu vas retourner en Allemagne avec ce message. Je ne crois pas que frère Branham ait dit à frère Frank le 3 décembre 1962, attends pour la distribution jusqu'à ce que tu aies reçu le reste. Tous les frères et sœurs qui ne peuvent pas croire cela font de Dieu un menteur. Permettez-moi de le dire clairement, de l'avoir dit clairement. Permettez-moi de l'avoir dit clairement. Nous sommes si proches du retour de Jésus-Christ. Il faut que la vérité soit dite. Il n'y a qu'une seule foi, qu'une seule église épouse, qu'un seul message divin, qu'un seul mandat. Il n'y a qu'un seul mandat que le Seigneur Dieu a accordé par grâce en ce moment. Lisons encore un peu. Nous lisons Tite 2, versets 7 et 8. Tite 2, versets 7 et 8. Je lis le verset 7. Et présente-toi toi-même à eux comme un modèle de bonnes œuvres à tout égard. Dans l'enseignement, fais preuve de pureté, d'authenticité, de vérité absolue, indiscutable, sans falsification, de dignité et de sérieux. Dans l'enseignement, fais preuve de pureté, d'authenticité, de vérité absolue, indiscutable, sans falsification. Cela est adressé qu'ont reçu un appel aux hommes qui sont envoyés, qui ont été réellement envoyés par le Seigneur. Fais preuve de pureté, d'authenticité, de vérité absolue, indiscutable, sans falsification, de dignité et de sérieux. Qui parmi tous ces frères qui racontent des histoires, diffusent des interprétations et transmettent de telles falsifications peut être classé ici? Qui de tous ces frères? Je ne connais aucun de ceux qui se sont écartés et qui proclament leur propre enseignement qui pourrait être classé ici dans cette écriture. Nous restons dans l'enseignement divin qui nous a été donné par les Saintes Écritures. S'il te plaît, je vais maintenant lire le verset 8 de Tite 2. Des paroles saines et irréprochables, afin que tout adversaire se sente confus parce qu'il ne peut pas dire du mal de nous. Aussi, ce verset est lui aussi un véritable coup de massue. Tout simplement si puissant. Il ne s'agissait pas seulement de Paul, mais de Dieu qui utilisait Paul pour mettre ses paroles dans le cœur de son collaborateur Tite. Et aujourd'hui, Dieu veut m'utiliser pour mettre ses paroles dans le cœur de tous les frères qui servent, afin qu'il n'y ait vraiment plus de mélange, plus d'interprétation, plus rien de propre, plus aucune pensée propre, mais que l'Église épouse se rassemble partout dans le même lieu et vive sa préparation finale pour le retour de Jésus-Christ. S'il te plaît, nous lisons de 1 Timothée, le chapitre 2, le verset 7. C'est pour ce témoignage que j'ai été appelé à être prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas. Établi comme enseignant des païens dans la foi et la vérité. Rendons grâce au Seigneur. D'abord, Paul énumère d'abord une série de faits divins, puis c'est pour cela que, il dit ensuite, c'est pour cela que j'ai été déterminé, désigné pour transmettre la parole en toute vérité. Et qu'il a été désigné et déterminé comme prédicateur et enseignant, appelé à être prédicateur. Rendons grâce au Seigneur qui a placé dans l'Église les différents ministères, dons et tâches. Mais maintenant, il s'agit principalement de l'enseignement apostolique. Il s'agit de la parole prophétique. Il s'agit de ne pas annoncer autre chose que ce qui est écrit dans ce testament ici. Et un testament a tout ce qu'il faut pour l'être. Et comme il exprime la dernière volonté, et comme Paul a pu souligner qu'il a été désigné comme enseignant par Dieu, personne ne peut s'approprier un don ou une tâche. Il doit lui avoir été, cela doit lui avoir été donné par Dieu. Et c'est pourquoi nous sommes reconnaissants de pouvoir tout classer et transmettre de manière biblique aussi dans l'enseignement, même sur le plan doctrinal, afin que tout soit finalement ordonné bibliquement avant le retour de Christ et que cela soit prêché ainsi. S'il te plaît, nous lisons encore le verset 13 de 1 Thessaloniciens 3. 1 Thessaloniciens 3, verset 13. Qu'il affermisse vos cœurs afin qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant notre Dieu et Père lorsque notre Seigneur Jésus viendra avec tous ses saints. Nous pouvons ici répéter Amen et Amen à plusieurs reprises à ce sujet. Demeurez fermement dans ce que nous avons reçu lorsque le Seigneur reviendra avec les saints, avec ceux qui se sont endormis en Christ, et que nous qui vivons et serons restés vivants seront changés. Que nous fassions vraiment partie de la troupe qui sera enlevée, de la troupe qui s'est laissée préparer, qui reçoivent et acceptent avec un respect divin aussi les appels divins pour notre temps. Puis-je le dire haut et fort? Tous ceux, et j'inclus ici toutes les communautés pentecôtistes du monde entier qui revendiquent d'être baptisés du Saint-Esprit, d'exercer des dons, de prier pour les malades et ainsi de suite. Pour ceux qui ne croient pas à ce que Dieu a prévu dans sa parole pour ce dernier passage, pour ce dernier passage dans le temps dans lequel nous sommes maintenant, Luc 19, du verset 40 au verset 45, s'applique à eux, que Jésus a dû pleurer sur Jérusalem et dire « Jérusalem, Jérusalem, oh, si tu avais connu en cette heure ce qui sert à ta paix. Mais maintenant, cela est resté caché à tes yeux. Celui qui ne voit pas ce que Dieu a promis, qui ne voit pas ce que Dieu fait maintenant, celui pour qui ces choses sont restées cachées, il est aveugle, il est spirituellement aveugle, il peut parler en langue, il peut parler en langue, il peut prophétiser, il peut exercer tous les dons et venir ensuite dire au Seigneur, n'ai-je pas prophétisé, n'ai-je pas fait ceci et cela? Bien, mes frères et sœurs, je ne sais pas pourquoi je dois insister sur toutes ces choses aujourd'hui, mais je me répète, celui qui ne reconnaît pas ce que Dieu fait en notre temps conformément à ce qu'il a promis, où il a dit par exemple, je vous enverrai le prophète Élie avant que n'arrive le grand jour terrible et redoutable de l'Éternel. Frères et sœurs, dois-je vous le dire, Pierre, sous l'inspiration du Saint-Esprit, avait déjà parlé dans sa première prédication du jour du Seigneur. Dans Actes 2, verset 20, il avait parlé du jour de l'Éternel. Et il a dit que le soleil se changera en ténèbres et que la lune en sang avant l'arrivée du grand et terrible jour du Seigneur. Imaginez-vous cela. Déjà, Pierre a dû dire cela dans sa première prédication. Ce qu'il a dit dans sa première prédication, c'est ce que je dois dire aujourd'hui dans la dernière. Et j'insiste dans la dernière prédication. Et j'insiste encore dans les dernières prédications maintenant à la fin. Et j'insiste encore. L'Écriture est accomplie sous nos yeux avant que le jour de grâce, le jour du salut ne s'achève et que le jour de l'Éternel ne se lève et que le soleil ne se change en ténèbres et que les étoiles ne tombent du ciel. Dieu a pourtant tenu sa parole, sa promesse. Qui peut passer à côté de cela? S'il vous plaît, qui? Et je le répète encore une fois, que chacun s'adresse à Dieu lui-même, pas à moi, pas à frère Branham ou à frère Paul, que chacun se présente devant Dieu et dise, Seigneur, bien-aimé, accorde-moi la grâce de prendre maintenant réellement part à ce que tu as prévu pour ces jours. Et comme nous l'avons lu au commencement, ils sont restés dans l'enseignement des apôtres. Ils sont restés attachés avec persévérance dans l'enseignement des apôtres. Dans la communion, dans la prière, dans la fraction du pain. De la même manière, nous sommes maintenant revenus à l'enseignement des apôtres. Nous restons en communion intime avec le Seigneur et les uns avec les autres, dans la communion du Saint-Esprit. Et nous remercions le Seigneur Dieu pour ce qu'il a déjà fait, ce qu'il fait actuellement et ce qu'il fera encore à la fin. Lui, notre Seigneur et Rédempteur bien-aimé, qui a versé son sang saint pour pardonner nos péchés, le sang de la nouvelle alliance. Frères et sœurs, nous sommes le peuple de la nouvelle alliance, les fils et les filles de Dieu, et nous sommes destinés à faire partie de l'Église épouse de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi nous croyons à l'accomplissement des promesses en notre temps. Au Seigneur, notre Dieu, soit la gloire, soit la louange, soit le remerciement d'avoir ouvert nos yeux, nos cœurs, de nous avoir permis de voir ce que le Seigneur, de nous avoir permis de voir que le Seigneur ait confirmé sa parole à notre égard et continue à la confirmer jusqu'à la perfection. À lui, la gloire dans toute l'éternité. Alléluia. Amen. Amen. Nous nous levons encore et remercions le Seigneur. Frère Borg va encore remercier. Père Céleste, nous te remercions pour ta grâce. Nous te remercions, nous sommes ton peuple. Et tu nous as parlé ce matin par ta précieuse parole. Ta parole est esprit et vie. Ta parole produit l'effet pour lequel tu l'envoies. Bénis tous les frères et sœurs du monde entier qui ont entendu le dernier message. Bénis-les. Bénis toute l'œuvre. Nous sommes reconnaissants de pouvoir reconnaître ce que tu as fait et ce que tu fais maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Joyeux résonne nos cantiques pour le Seigneur. Joyeux dans le Seigneur. Même si les épreuves sont dures et rudes, il accorde en conséquence sa grâce. Restons joyeux dans le Seigneur. Car en lui, nous avons la victoire. La victoire. Alléluia. Je suis heureux car ma foi est la victoire. Honneur et gloire et alléluia au Seigneur. Jésus a tout accompli pour moi. Je fais fermement confiance au Seigneur et je me tiens fermement dans sa parole. Victoire dans le Seigneur. Victoire dans le Seigneur. Quoi qu'arrive, nous avons la victoire dans le Seigneur. La victoire dans le Seigneur. La victoire dans le Seigneur. Oui, la pleine victoire. Alléluia. Je suis libéré, car ma foi est la victoire. Honneur et gloire. Alléluia. Jésus a tout accompli pour moi. Ma délivrance est manifestée. Victoire dans le Seigneur. Victoire dans le Seigneur. Je lui reste fidèle jusqu'à la mort. Quoi qu'arrive, j'ai la victoire dans le Seigneur. Victoire dans le Seigneur. Oui, la pleine victoire. Alléluia. Je suis libéré, affranchi, car ma foi est la victoire. Honneur et gloire. Et alléluia. Jésus a tout accompli pour moi. Quand j'aurai accompli la dernière bataille et atteint le but, alors dans toute éternité, je chanterai dans la gloire. Victoire dans le Seigneur. Victoire dans le Seigneur. Victoire dans le Seigneur. Oui, pleine victoire. Alléluia. Je suis libéré car ma foi est la victoire. Honneur et gloire. Alléluia. Jésus a tout accompli pour moi.